Ah, une chronique qui tourne autour de l'immobilier ce matin. Et ça, c'est une idée qui revient de temps à autre, là, c'est-à-dire imposer le gain en capital sur notre résidence principale au moment de la vente.
Oui, et on a parlé à Radio-Canada récemment, on en a parlé un peu partout. C'est dans les cartons des possibilités de M. Trudeau, de M. Legault éventuellement, c'est-à-dire où on peut encore aller chercher de l'argent, c'est le gain en capital sur les résidences. Et là, ne vous affolez pas. Je ne suis pas en train de dire « faudrait imposer votre résidence, faudrait imposer votre patrimoine, votre seul actif ». C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est il reste dans la résidence principale un angle mort. Puis M. Legault en est un bon exemple. Acheter une maison 1 150 000, la revendre 5 millions, ça génère plus que ta résidence principale, ça génère une échappatoire fiscale qui est proportionnelle à la valeur de ta maison. Donc, par exemple, si tu as acheté il y a 20 ans un duplex 120 000 puis tu le revends 900 000 aujourd'hui, tu as un gros gain, mais plus ta maison valait cher à l'époque, plus ton gain est élevé et plus tu as une portion non imposable. Si on compare avec les entreprises ont un plafond cumulatif d'exonération de gains en capital qui est le même pour tout le monde. Tandis que pour la maison, ça dépend de la valeur. Alors, il y aurait peut-être quelques possibilités, Paul, à proposer au gouvernement pour taxer le gain capital d'une certaine part de maison. Je te donne des exemples. Les maisons au-dessus de 2 millions, le gain serait taxable. Tu sais, ce serait un choix. Et le plafond montré avec les années. On pourrait dire aussi, on va permettre un gain cumulatif de gain en capital sur les résidences principales à vie. Par exemple, vous avez le droit à 500 000, 600 000 de gains. 1 million, peu importe le seuil qu'on mettrait en place. Et après ça, vous seriez imposé. Parce que là, Paul, il y a des petits flippeux déguisés. Tu sais, quelqu'un qui participe à une émission de réno, fabrique une maison, la revend 2 ans plus tard, en fabrique une autre, la revend 2 ans plus tard. Et finalement, on se retrouve à flipper sa résidence principale et en faire un modèle d'affaires aux 2-3 ans. Et finalement, on n'est plus du tout dans la protection de patrimoine. On est dans la concurrence des entrepreneurs en construction, mais sans impôts, parce qu'on vit dedans 1 an ou 2. L'autre point que ça amènerait intéressant, c'est la problématique actuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens présentement qui font des gains sur des résidences qu'ils n'habitent à peu près pas. Et il y a des courtiers qui m'envoient des exemples de maisons qui prennent 100 000, 200 000 de valeur. La personne la désigne résidence principale pour quelques mois et hop, paf! Gain en capital, revente, et donc ça devient de la spéculation et ça ralentirait le marché immobilier qu'on mette certaines règles. L'autre point, bon, je suis allé me promener à Westmount en fin de semaine, Paul. Je me suis perdu. Je vais t'avouer que je me suis perdu. J'ai fait Google Maps, puis là, je suis tombé dans les maisons vraiment chères. Puis là, il y a aussi le point de patrimoine multigénérationnel. Quand tu lègues une maison de 5 millions à tes enfants, qui eux la lèguent une maison de 10, puis 20, puis 30, on est en train de cumuler du patrimoine multigénérationnel dans une résidence principale. Et évidemment, au niveau de la spéculation immobilière, mettre des règles, ça ralentirait peut-être le marché. Donc, peut-être que M. Trudeau a ça dans ses cartons. Peut-être que M. Legault a ça dans ses cartons.
Mais politiquement, c'est dur à vendre. Parce que, tu sais, c'est l'investissement d'une vie pour la majorité des gens. Là, c'est pas tout le monde qui spécule ses maisons, puis... Et là, tu dis, moi, j'ai acheté ça tant, je garde ma maison ou je décide, je la vends, mais c'est pour me payer un condo plus petit ou des soins, ou tu sais. Puis là, déjà que tu payes des impôts toute ta vie, puis tu payes des taxes municipales, puis là, tu dis, tu viens me ramasser dans mon dernier retranchement.
Mais c'est
là.
Pour ça que mon plafond cumulatif à vie est intéressant.
Oui, oui.
Tu dis, vous avez le droit à, par exemple, 500 000, 1 million, donc la majorité des gens, pour l'instant, n'auraient pas d'impôts sur leur maison. Mais des gens qui font des très grands gains, on pourrait dire, oh ben, le gain est imposable à 10 % au-delà d'un certain gain. Même pour mettre 50 % comme les autres.
L'impôt sur c'est ça.
Tu pourrais dire que 10 % du gain est imposable à 50 % ou 20 % est imposable à 50 %. Donc, mettre des règles intermédiaires qui choqueraient nullement le commun des mortels, nullement l'investisseur moyen, mais plus la personne qui a des très gros gains à l'abri de l'impôt.
Parle-moi donc, justement, globalement, du marché immobilier canadien.
Bon, Fitch dit... qu'au Canada, le marché immobilier est surévalué, puis on dit à Montréal de 19 %. Et ce qui m'intéresse, j'ai tapé Fitch, Enter, surévaluation de marché. Imagine-toi donc qu'ils ont annoncé ça aussi en 2013, puis en 2014. Là où je voulais amener un bémol, ne paniquez pas sur ce que Fitch dit totalement. Fitch a raison sur une chose. la capacité de payer des locataires et des propriétaires à Montréal et ailleurs au Canada baisse. T'sais, leur revenu par rapport à la valeur de l'immobilier est moins intéressant. La croissance n'est pas aussi grande. Par contre, vos immeubles ont cru en valeur à cause de la baisse des taux d'intérêt, à cause de la pandémie, puis à cause de l'offre et de la demande générale pour certains marchés. Mais je suis allé voir les taux négociés 5 ans fixe, OK, sur RateHub. Donc, je suis allé voir en 2008. En 2008, Paul, on payait 5,89 sur un prêt hypothécaire fixe 5 ans négocié. Cette année, on est allé négocier du 1,4, du 1,6, du 1,7. Là, on est à peu près à proche de 2 fixe 5 ans. Imagines-tu? On a divisé par 3 depuis 2008 le taux fixe 5 ans qu'on pouvait négocier. Alors, c'est clair que ça s'est reflété dans les paiements hypothécaires et la valeur des maisons, mais pas nécessairement dans la capacité de payer en fonction du revenu des gens. Donc, Fitch fait une analyse en fonction du revenu, mais ce que Fitch doit regarder aussi, évidemment, c'est de se dire, OK, avec les taux d'intérêt actuels, c'est peut-être la même réalité qu'il y a une couple d'années. Le problème, c'est que prenez votre prêt hypothécaire actuel, mettez le taux de 2008, donc 5,89, regardez vos paiements, puis dites-vous, aïe aïe.
Faudrait pas que ça arrive.
Ben, c'est ça. Donc, le gouvernement est très au courant de ça et c'est pour ça qu'on garde des taux d'intérêt.
Merci, monsieur. Bonne journée. Salut. 7h21.